Noisettes, une lignée de jardiniers. À découvrir dans cet épisode. Après avoir fait la connaissance de Joseph, Noisette et de sa femme, penchons-nous sur sa très nombreuse descendance. En effet, il a eu 16 enfants, dont 9 suivront ses traces. Louis-Claude est le second de ses enfants, l'aîné des garçons. Il est né le 2 novembre 1772 à Châtillon. Son père, qui ne savait ni lire ni écrire, lui a transmis son savoir de jardinier et lui a également offert une bonne éducation. Puis viennent les années bouillonnantes, liées aux grands voyages, aux explorations, au passage de la Révolution. Peu à peu, ce fils s'est forgé un nom et une réputation. D'abord nommé jardinier au Val-de-Grâce, dont il dirige les jardins et les serres, il perd son poste suite à une réaffectation lors de la Révolution. Qu'à cela ne tienne, pendant quelques années, il accumule un peu d'argent pour fonder en 1806 avec ses frères un établissement botanique afin de collectionner toutes les plantes remarquables de l'époque. Il y possédait notamment une riche collection de roses. Il fait partie des premiers à avoir construit un jardin d'hiver vitré et chauffé. Auteur d'ouvrages de jardinage, d'ouvrages de botanique, vendeur connu sur la place de Paris, il est, c'est certain, le plus célèbre des enfants, celui dont la réussite sera éclatante et dont la notoriété traversera les frontières. Même les Anglais, à farouche opposant de Napoléon, le connaissaient. Il lui faudra cependant attendre la chute de l'empereur avant de pouvoir aller dans ce pays et y rencontrer les botanistes. Il a été membre de plusieurs sociétés d'horticulture. Vraiment, une célébrité dans ce monde de rosieristes et de botanistes.
Les années ont passé. Les descendants de Joseph Noisette se sont établis en grande majorité en région parisienne. Sauf Antoine, qui vit à Nantes. C'est chez lui que nous allons nous glisser en l'an 1842, à Nantes, route de Paris, plus exactement, où il réside avec sa femme.
Antoine rentre chez lui après sa journée, mais chut, écoutons-les.
Bonsoir Jeanne, quelles sont les nouvelles du jour ?
Ta sœur m'a écrit de Paris. Tout le monde va bien, mais figure-toi qu'elle m'a recopié un passage d'un journal parisien où l'on parle de ton frère. Comme elle sait que nous ne l'avons pas lu, elle m'en cite des extraits.
De quel frère ?
De ton frère aîné, Louis-Claude.
Les journaux parlent de sa Légion d'honneur ?
Mais non, ça fait déjà 2 ans qu'il l'a obtenue.
Que disait donc l'article alors ? Il parlait de son magnifique établissement parisien ?
Attends, je vais te lire le passage cité par ta sœur. Écoute, il y a 12 ans environ, un de mes plus doux passe-temps consistait à me diriger vers la barrière Saint-Jacques pour y visiter le jardin et les admirables serres de Monsieur Noisette. En ces temps-là, Monsieur Noisette s'occupait avec une prédilection marquée à réduire le rosier du Bengale à l'état de nain. Monsieur Noisette n'est pas, que je sache, le jardinier du gouvernement.
Quoi ? Que raconte-t-il ? Quel est ce journal ?
Il s'agit de la France, du 18 octobre 1842. Et plus loin, il continue ainsi. Rien n'est curieux à examiner que les serres de Monsieur Noisette, contraignant la température dans la même saison à se conformer ici au goût des plantes intertropicales, si frileuses de leur nature, là au tiède désir des fleurs du Nord.
C'est un poète, ce journaliste.
Oui. Il parle ensuite des serres, qu'il était obligé de chaque année d'augmenter en surface pour ses lianes d'Amérique. Il raconte même un épisode que j'avais oublié. Le sacrifice de ces deux manseniliers. Écoute. Il les tenait étroitement enfermés comme des malfaiteurs qu'ils étaient. Le changement n'avait qu'à peine affaibli en eux la violence de leurs instincts d'empoisonnement.
C'est vrai, je me souviens qu'il a été obligé de les abattre.
Ils sont aussi dangereux que cela, ces arbres.
Les jardiniers qui les soignaient tombaient malades pendant plusieurs jours. Pourtant, ils se recouvraient le visage d'un masque de verre hermétiquement fermé et se revêtaient le corps d'une double couverture de peau de buffle. Mais ça ne suffisait pas. Alors il les a supprimés. Mais tu connais mon frère. Ça a été un vrai crève-cœur. Toutes les plantes le captivent, et il les met toutes sur le même pied. Ce n'est pas pour rien que l'on peut trouver chez lui n'importe laquelle, même celle passée de mode.
C'est vrai que j'aimais bien son établissement rue Saint-Jacques. J'y suis allée si souvent, quand nous vivions à Paris. Je me souviens même de ses débuts en 1806. Mon père m'y emmenait. C'est vrai que c'était superbe. Tous les passionnés d'horticulture s'y pressaient.
Mais les grands du royaume aussi. As-tu oublié le prince Esterhazy? Celui qui lui a offert la montre en or à répétition, qu'il ne quitte guère.
Ah oui. Le prince lui avait demandé de fournir des plantations pour ses domaines. D'ailleurs, il l'avait emmené avec lui pour y diriger les embellissements prévus.
C'est d'ailleurs grâce à lui que mon frère a fait le tour des plus célèbres jardins en Autriche, Allemagne, Hongrie, la Bohême, la Pologne. Ah, quel périple!
Cette rencontre a été la chance de sa vie. Pour tes frères Étienne et Marie aussi, ce sont eux qui ont fini le chantier en Hongrie.
C'est vrai que dans ta famille comme dans la mienne, le jardin, c'est une passion héréditaire.
Mais ton frère Louis-Claude est insatiable. Souviens-toi de l'école d'horticulture de Fontenay-aux-Roses. À peine vendue en 1836, sitôt transférée à Montrouge. L'école lui tenait à cœur.
Tu sais bien que nous tenons ça de notre père. C'est lui qui nous a transmis cette passion, quand nous étions enfants, dans les jardins potagers du château de Brunois, où nous avons grandi et où il travaillait. Que de bons souvenirs, Jeanne.
Maintenant, ton frère se fait vieux. Sais-tu s'il a l'intention d'aller à Misery cette année?
Non, je l'ignore. Depuis l'achat de cette ferme à Misery, dans l'Yonne, il y a consacré tant de temps.
Du temps et de l'argent? Rappelle-toi le nombre d'arbres qu'il y a plantés.
Tu penses bien, je les ai vus. 200 000, c'est énorme. Sans compter les ligneux qu'il a fait planter à ses frais pour prouver ses théories sur les bordures végétales pour les routes. Il n'y a que lui pour faire ça.
Pourtant, quand des connaissances me parlent de lui, on ne me parle que du rosier qu'il a créé avec votre frère Philippe. C'est si peu. Comparé à ses livres, tous ses travaux, toutes ses recherches.
Ah, ce rosier. Dis-toi qu'il nous a bien rendu service, ce blush noisette. Il a rendu notre nom de noisette célèbre.
Tu peux le dire. Et quel coup de génie d'avoir demandé au peintre redouté de le représenter. Le peintre attitré des roses de l'impératrice Joséphine. Quelle publicité! Ah, ça nous a bien servi. Nous devons une fière chandelle à ton frère de ce côté-là. Et toi, ta journée, tout s'est bien passé à la pépinière?
Oui, rien de notable. Passons à table, je meurs de faim.
Laissons notre couple noisette, Antoine et Jeanne, à Nantes. Et retournons sur les pas de cet éminent botaniste, Louis-Claude Noisette, qui, à force de ténacité, de travail et de passion, deviendra si célèbre. À partir de 1817, rédacteur de notes et d'articles pour des revues de jardinage, du dictionnaire d'agriculture, etc. Louis-Claude Noisette mourra en 1849 à Paris. Sans descendant, il laissera pour seule postérité, aujourd'hui, un rosier qui porte son nom, ainsi qu'un des potagers du jardin de Versailles.